Si, on est dans la joie ce matin parce qu'on célèbre le Seigneur, notre Dieu, Jésus qui est venu sur terre pour nous sauver. Et on vous invite à continuer dans la louange en chantant Dieu admirable. On se le rappelle ce matin, c'est un Dieu tout puissant, Dieu admirable. Tu es venu pour nous conduire sur la terre. Alléluia, nous t'honorons, nous te glorifions.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, un jour particulier, un temps de célébration, de baptême. Depuis déjà 2000 ans maintenant, Jésus a annoncé un message d'amour, un message de reconnexion entre l'amour de Dieu et nous. Et 2000 ans plus tard, on continue à le vivre ici, à Strasbourg, à la Méno. Est-ce qu'on peut juste applaudir Dieu pour son œuvre et sa fidélité pendant ces 2000 ans qui sont là? On est bien sûr heureux d'accueillir chacune et chacun d'entre vous. Vous qui êtes en ligne, vous faites partie des juilletistes. Puis après, il y aura les autistes. Et peut-être vous êtes là, déjà posés, en repos. Mais vous suivez la célébration de l'Épi. Eh bien, on est heureux d'être connectés avec vous ce matin. Heureux d'être connectés en relation les uns avec les autres. Et on voudrait d'une manière toute particulière accueillir chaleureusement la famille de Marine qui va se faire baptiser. Est-ce qu'on peut les accueillir? On va pas les mettre mal à l'aise, mais juste les accueillir. Bienvenue. Bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous, c'est vraiment un honneur de vous accueillir dans ce lieu. On va vivre ce temps ensemble, ce temps de communion, ce temps de témoignage aussi. Et on va laisser toute la place à Marine qui va maintenant nous partager pourquoi elle en arrive là ce matin.
Est-ce que tu peux te présenter rapidement?
Je m'appelle Marine, j'ai 21 ans et je fais actuellement des études en gestion.
Comment tu vivais avant de rencontrer Jésus?
Je suis née dans une famille catholique et j'ai toujours fait tout ce qu'il fallait dans le catholicisme pour être bien dans le droit chemin de Dieu. Mais en vérité, j'ai jamais vraiment au fond de mon cœur, je pense, ressenti ce qu'il fallait ressentir réellement et que je faisais les choses juste parce qu'il fallait les faire. Et ensuite, arrivé à l'adolescence, surtout au lycée, je me suis éloignée en rencontrant d'autres personnes. Et je continuais de prier, mais seulement dans les moments où moi j'avais besoin de quelque chose. Et je priais que pour demander à Dieu de faire ce que moi je voulais.
Et du coup, est-ce que tu peux nous dire comment tu as rencontré Jésus?
C'était à la fin du lycée, quand je suis arrivée sur Strasbourg. En première année d'études supérieures, je me suis sentie très seule, alors que j'étais accompagnée, mais très seule, je pense, du fait de quitter mes parents et ma petite sœur. Et j'ai rencontré des personnes pendant ma première année d'études et on était tous chrétiens, mais de, on va dire, branches différentes. Et on priait souvent ensemble, etc. Et ça m'a redonné, on va dire, un peu goût et foi en Jésus. Et j'ai commencé à prier autrement. Et j'ai reçu une Bible en cadeau d'anniversaire. Et c'était la première que j'avais de ma vie. Du coup, j'ai commencé à lire un petit peu, à prier de manière bien différente. Et un soir, j'ai décidé de prier pour vraiment demander pardon, parce que pour moi, je ne pouvais pas aller à l'église sans avoir demandé pardon avant. Du coup, j'ai vraiment demandé pardon et le Seigneur a fait en sorte que toutes mes larmes se déversent en une seule fois. Je ne pensais jamais autant. Mes draps étaient remplis tellement je pleurais. Et d'un coup, j'ai senti que quelque chose de très lourd se posait sur mes mains. Et à ce moment-là, j'ai compris que j'étais pardonnée, que j'étais aimée dans mon entièreté, que je n'avais pas besoin de changer pour qui que ce soit, que je pouvais rester moi-même et que Jésus m'aimait comme ça. Et c'était un samedi soir et le dimanche matin, je me suis réveillée très tôt, que ça n'arrive jamais. Et je me suis retrouvée à l'Épi et c'est là que j'ai senti ma maison. Et depuis, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée.
Qu'est-ce qui a changé pour toi et pourquoi tu veux te faire baptiser?
Ce qui a changé pour moi, c'est que j'ai vraiment trouvé la paix. Et j'ai compris que toute la colère ou les autres choses qui arrivaient dans la vie, elles n'étaient pas utiles ou pas aussi importantes que l'amour et la paix que pouvait m'apporter Jésus. Et je décide de me baptiser parce que je veux vraiment laisser toute, tous mes péchés derrière moi et vraiment avoir maintenant cette vie de paix en permanence et que je m'abandonne entièrement pour laisser place à Jésus dans mon cœur.
Marine, tu as eu un super cadeau pour ton anniversaire, une Bible. On est d'accord ? Juste, je vais faire une petite annonce. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez aller au point accueil après. C'est le meilleur des cadeaux. Le meilleur. Tu as rencontré Jésus ? Est-ce que tu crois qu'il est mort pour tes péchés ?
Oui, je le crois.
Est-ce que tu crois qu'il a tout pardonné, tous les péchés ?
Tous ? Absolument tous.
Est-ce que tu t'engages à le suivre toute ta vie, quoi qu'il arrive ?
Oui, je m'engage.
Alors sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter ? Et si Dieu est
ce matin. Merci pour cette vie que tu sauves encore. Aujourd'hui, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es un Dieu grand et puissant. Tu es avec nous dans les moments difficiles. Tu es avec nous dans les ténèbres. Quand le ciel s'assombrit, tu es là. Tu restes là. Tu restes fidèle. Alléluia. Je veux te glorifier. Nous voulons ensemble.
Thank you. règne à jamais et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai.
Que les ruines reprennent vie, chantons le plus fort.
De la mort éternelle. Et aujourd'hui, nous vivons. Tu appelles les gens à te suivre. Tu appelles, tu bouges, Seigneur Jésus. Tu bouges les cœurs, tu bouges les vies. Et tu reconstruis. Tu reconstruis. Tu es celui qui reconstruit. Je vous invite à prier dans votre cœur ou à haute voix. Vous êtes au pied de la croix ce matin. On est ensemble devant lui. Et il est là, et celui qui est abattu, il le relève. Je le crois, c'est ses promesses. Il reste fidèle ce matin, et tous les jours, éternellement, il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Vous pouvez prier. Prions ensemble, notre Seigneur Jésus.
Merci à l'équipe de louanges qui nous a conduits dans ce temps de chant, ce temps où on a glorifié Jésus, ce temps où on l'a élevé. Et voilà, je voudrais aborder avec vous un thème ce matin. Le titre de mon message, c'est « Incertitude ». Incertitude. On est heureux d'avoir entendu le parcours de ce qui s'est passé dans le cœur de Marine. Et on a vu plein de choses, on a vu sa rencontre avec Jésus qu'elle a exprimée par ses mots. Et puis, elle a exprimé comment, au travers d'autres chrétiens, elle a pu expérimenter le pardon de Jésus. Mais elle nous a aussi parlé de paix qui est venue remplacer la colère. Et ça, c'est fort. Et je pense que pour la plupart d'entre nous dans cette salle, on s'identifie à ce que Marine a vécu. Elle a vécu des choses où nous, on peut dire, ben oui, moi aussi, dans certains domaines de ma vie, j'ai expérimenté ça avec Jésus. Mais peut-être que pour d'autres, ce matin, dans ce lieu, c'est plutôt de l'incompréhension, plutôt des questions, plutôt du doute, plutôt de l'incertitude. Je vois tous ces gens qui chantent là pour Jésus, et ça me fait bizarre. Bizarrement, ça ne me fait pas bizarre quand on voit des gens qui chantent à 23 000 deux arrêts de tram plus bas pour des mecs qui courent en short, qui claquent un but, et là, tu as tout le monde qui chante à leur gloire. Pour des gens qui ne changent pas leur vie. Ici, on chante celui qui a transformé nos vies. Parce que ça a eu un impact dans nos cœurs. Voilà pourquoi il y a de la ferveur, pourquoi il y a de l'émotion aussi dans ce qui est communiqué. Mais nous, on peut être là ce matin dans ce lieu et dire « Waouh, je suis tellement en décalage par rapport à ce que ces gens vivent. Je comprends pas ce qui se passe. » Tous ces gens ont l'air convaincus que cet homme appelé Jésus, qui a vécu il y a 2000 ans, qui est mort sur une croix et dont ils disent qu'il est ressuscité, a un impact sur leur vie. Et on peut dire « Mais moi, je ressens pas ce qu'ils sont en train de vivre. Je comprends pas ce qu'ils sont en train de vivre dans leur cœur. » Moi, je ressens rien. C'est plutôt des doutes quand j'entends parler de Jésus qui sortent de moi. C'est plutôt des incertitudes, des questionnements. Laissez-moi vous dire ce matin que si c'est votre cas dans ce lieu, vous êtes les bienvenus. Vous êtes à la bonne place. Vous êtes à la bonne place pour entendre parler de l'histoire d'un homme qui est exactement comme vous. C'est un homme qui a cheminé avec Jésus, qui était à ses côtés et qui, à un moment donné, a eu des doutes, des questionnements quant à la résurrection de Jésus. Il n'arrivait pas à y croire. Il n'arrivait pas à saisir cette vérité pour lui. Et on va voir ce matin que ces doutes, ces incertitudes n'ont pas été des obstacles à l'œuvre que Jésus voulait faire avec lui lors de sa rencontre. Ça n'a pas été un obstacle. Il n'a pas été disqualifié parce qu'il ne pensait pas comme le reste du groupe. Non, il a été accueilli, rejoint par Jésus, rejoint par sa communauté, la communauté disciple de Jésus qui l'entourait. Et ça, ça a été l'occasion, cette rencontre, cet échange, d'expérimenter le Dieu ressuscité dans sa vie, Jésus-Christ. Je crois que ce matin, Jésus veut nous faire passer de l'incertitude à la certitude. Alors, beaucoup savent de qui on va parler. On va parler de Thomas. C'était un disciple de Jésus et on lit son histoire dans l'évangile de Jean, notamment dans le chapitre 20. Le chapitre 20 va nous relater comment Jésus s'est manifesté à ses disciples le dimanche de Pâques après sa crucifixion. Mais le problème, c'est que Thomas, il n'était pas là avec eux à ce moment-là. Il n'a pas vécu ce que ses amis ont vécu. Et c'est ainsi que commence notre récit et c'est mon premier point ce matin. Tu as le droit à l'incertitude. Tu peux être chrétien et tu as le droit à l'incertitude. On commence la lecture, Jean 20, versets 24-25. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » Voilà le contexte. Tous les disciples de Jésus viennent de le voir debout au milieu d'eux, alors qu'eux, ils étaient cachés, enfermés dans une maison où ils s'étaient assurés que les portes étaient fermées parce qu'ils avaient peur des religieux juifs qui voulaient les tuer, parce qu'ils étaient associés à Jésus. Ils sont cachés, ils sont terrés. Et là, il y a Jésus qui se manifeste, qui passe à travers les portes et qui est au milieu d'eux. Donc ça, c'est leur expérience à eux. Mais Thomas, lui, il n'est pas là. On ne sait pas pourquoi. Alors bien sûr, on sait qu'au moment où Jésus était capturé, il y a tout le monde un peu qui a pris la fuite. Peut-être qu'il n'était pas encore revenu. Mais il n'est pas là au moment de cette expérience où les autres disciples se sont rassemblés. Et alors qu'il va les retrouver, les autres vont lui dire « Mais Thomas, il est vivant! Je te dis qu'il est vivant !» C'est incroyable parce que quand on lit le texte, on nous dit qu'ils lui dirent, et le mot grec qui est employé, c'est « elégon ». Et le temps du mot grec qui est employé ici parle d'une insistance, une insistance. Il y avait une activité insistante, vous savez, comme quand il y a des gens qui disent « Mais si, je te dis que je l'ai vu, je te dis que je l'ai vu, je te dis que je l'ai vu !» Puis là, Thomas, il fait « Voilà !» Malgré ce qu'il entend, il n'arrive pas à croire. Et c'est ce qui fait qu'il a souvent une image négative dans notre société. Vous savez, on a qualifié Thomas le sceptique. Qui connaît l'expression en France « Je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que... » Je vois, ça va, vous êtes en phase, on est là ce matin, c'est cool. C'est une expression qui lui a été attribuée, mais elle n'est pas vraie. Le mot sceptique n'est pas juste pour Thomas. Vous savez que les autres disciples ont eu exactement la même réaction que lui quelque temps auparavant. Alors que les femmes vont au tombeau pour mettre des parfums sur le corps de Jésus, etc., elles rencontrent le tombeau vide, des anges se manifestent à elles pour dire « il n'est plus là, il est ressuscité ». Elles vont voir les disciples en disant « Jésus, il est ressuscité ». Et là, ils n'y croient pas. Là, ils n'y croient pas. Ils ne sont pas là. Ils n'ont pas cru non plus, on lit ça dans Luc 24. À leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques et les autres femmes qui étaient avec elles. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas ces femmes. Donc Thomas n'est pas pire que les autres. Et j'ai envie de te dire ce matin, tu n'es pas pire que Thomas. Tu n'es pas pire que Thomas. Il n'était pas sceptique pour le goût d'être sceptique. C'est juste qu'il était absent à ce moment-là. Il n'a tout simplement pas vécu, il n'a pas expérimenté ce que les autres ont vu. Les autres ont vu celui qui venait d'agoniser sur la croix, qui donnait sa vie, qui, on le répète, est entré dans la maison de manière surnaturelle. Effectivement, quand on a une apparition comme ça, on ne reste pas insensible. Ça vient nous chercher quelque part, ça vient nous toucher. Mais lui, il n'était pas là. Ce qu'il constate juste, c'est que ses camarades sont excités et qu'ils lui disent « il s'est passé un truc ». Et ça, c'est un peu l'expérience que nos amis peuvent avoir quand ils sont en contact d'un chrétien évangélique. Mais c'est quoi ces excités? Ils sont tout fous, il y a Jésus à tout bout de champ, ils le chantent, ils le disent, ils le vivent. Mais c'est quoi? C'est quoi ces gens? C'est juste parce qu'on a expérimenté quelque chose avec Jésus. C'est quelque chose qui bouillonne au plus profond de nous, ça vit en nous. Ces chrétiens qui parlent de Jésus tout le temps à chaque fin de phrase. Soyons calmes les amis quand même, hein, quand on parle avec les gens. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un passionné de pêche. Et pas n'importe quelle pêche, mais la pêche au carnassier. Donc pour cette pratique, j'utilise la pêche au leurre. Les leurres, c'est quoi? C'est un bout de plastique qui ressemble à un poisson qu'on anime avec la canne pour faire semblant que c'est un poisson afin que les prédateurs viennent le saisir. Je suis passionné de ça. Et une des techniques de cette pêche, c'est ce qu'on appelle la pêche en surface, où le leurre, il est sur l'eau. Et j'ai regardé quantité de témoignages sur YouTube qui me montraient que cette technique était efficace. Est-ce qu'il y en a que ça intéresse de voir à quoi ça ressemble? Il y en a un, il y en a deux. Bon, allez, on va regarder 30 secondes, c'est quoi la pêche au leurre, si tu peux envoyer la vidéo. Un problème? C'est un leurre. Excellent. Ça va arriver. Si ça ne peut pas venir, tu me le dis. Ça ne peut pas venir? Ok, on a un souci technique. Bon, bref. Alors, la vidéo était vraiment géniale. On voit le gars sur son flotte tube. Alors, flotte tube, c'est une petite bouée en plastique. Et puis, il y a la rive au fond. Il jette le leurre comme ça et il l'anime. Et tout d'un coup, il y a un silure de plus d'1,50 m qui sort de l'eau. Et le buzz que je voulais faire ce matin, mais que je ne peux pas faire, c'est que ce poisson, c'est un ami de Mathieu Thomas, notre pasteur principal. Il voue une admiration pour ce poisson, qu'il aime tant regarder, mais qu'il n'a jamais pu toucher. Et si vous voulez savoir la suite de l'histoire, vous irez lui poser la question du pourquoi. J'y suis pour rien. Donc, voilà, cette technique-là, j'ai regardé toutes sortes de vidéos, puis je disais, mais ça marche pas. Oui, les gars, dans les vidéos, ça marche, mais moi, le peu de fois où j'ai lancé ça, il se passait jamais rien. Puis un matin, je me suis dit, bon, je ne vais pêcher qu'à ça. Je ne vais mettre que ce leurre, je veux expérimenter ce que ces gens vivent. J'ai mis ce leurre jusqu'à ce que je fasse mon premier poisson en surface. Vous êtes là, vous animez votre leurre sur l'eau, tout est calme, et tout d'un coup, il y a un truc qui jaillit de l'eau et ça vous fait même un sursaut. Parce que souvent, c'est quand même des gros poissons. Ça sort de l'eau et ça nous surprend. On est pris par l'attaque en surface. Mais pour que je puisse vivre ça, il a fallu que je cherche à l'expérimenter. Il a fallu que je cherche cette rencontre. Et c'est ainsi qu'on va entrer dans cette histoire de Thomas. C'est exactement ce que Thomas a voulu faire lorsqu'il déclare « Si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas dans ma main, dans son côté, je ne croirai point. » Thomas, il a besoin de quelque chose de palpable. Il a besoin de quelque chose de vérifiable pour sa foi. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'il exprime ses doutes sans réserve. « J'ai besoin de voir, j'ai besoin d'expérimenter. » Et la question que j'ai envie de vous poser ce matin, est-ce que ces doutes l'ont exclu du groupe? Est-ce que les doutes l'ont exclu du groupe? Non. Et on voit ça parce que notre texte se poursuit au verset 26 en disant « 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. » Thomas n'a pas été exclu du groupe parce qu'il pensait différemment. Thomas n'a pas été exclu du groupe parce qu'il avait des doutes quant à la résurrection de Jésus. Thomas n'a pas été exclu parce qu'il disait « Mais est-ce que toute cette histoire est vraie ?» Il est au milieu d'eux. Malheureusement, les chrétiens, parfois, on a une mauvaise réaction. On aime les vérités toutes faites, les vérités qui nous rassurent. Et lorsque quelqu'un vient avec ses questionnements, On a peur que leurs doutes nous contaminent et nous fassent perdre notre foi. Et pour cela, des fois, on va s'isoler et on va vivre en groupe entre nous. Que ceux qui pensent comme moi. Ça, c'est un peu, vous savez, les algorithmes sur les réseaux sociaux. On a l'impression que tout le monde pense comme nous, mais en fait, c'est juste qu'il y a un ordinateur qui calcule ce que t'aimes regarder et qui va te mettre que ces vidéos-là. Puis il y a l'autre camp, de l'autre côté, on va pas dire leur nom, qui eux ont des vidéos qui leur disent « mais tout le monde pense comme toi ». Ça isole, ça écarte, et ça, c'est nos peurs qui font ça. Là, on voit que les disciples n'ont pas peur d'accueillir quelqu'un qui pense différemment d'eux et d'être à leur côté. Vous savez, les doutes et les incertitudes, elles ont cette capacité à nous faire nous poser les bonnes questions. Elles ont pour fonction d'aiguiser notre esprit et peuvent être utiles pour qu'on puisse formuler des questions, obtenir des réponses et finalement prendre des décisions. Voilà à quoi sert un doute lorsqu'il est honnête et sincère. Jésus ne rejette pas les doutes honnêtes et sincères qui vont vous conduire vers la foi. Jamais. On a le droit de se poser des questions. À l'épi, nous croyons que peu importe notre condition, peu importe notre histoire, peu importe nos relations, peu importe notre passé, nous sommes tous les bienvenus dans ce lieu. Nous sommes tous les bienvenus pour expérimenter ce que Jésus veut faire encore aujourd'hui. On condamne toute forme d'exclusion, toute forme de pression, toute forme de manipulation qui peuvent être mises sur des gens. La foi, c'est une expérience personnelle qui se vit certes en communauté, mais c'est une rencontre, c'est une décision qui est prise avec nos sens. Voilà pourquoi on ne baptise pas des enfants ici, mais on baptise des gens qui ont compris ce que Jésus est venu faire et qui ont dit « je veux marcher avec lui ». Voilà pourquoi Marine, elle n'a pas eu peur de venir devant 500 personnes ce matin pour dire « j'ai compris que je veux marcher avec Jésus, il a changé quelque chose dans ma vie ». Voilà pourquoi. Des décisions. Est-ce qu'on peut se tourner vers son voisin et lui dire « tu es le bienvenu ce matin ». Et j'ai envie de dire à nos amis qui sont sur Internet, vous êtes les bienvenus à l'EPI ce matin en ligne avec nous. Tu as le droit à tes incertitudes. Tu as le droit à tes questions. Et le deuxième point que je veux soulever avec vous ce matin, c'est que Jésus veut rejoindre ton incertitude. Jésus veut rejoindre nos incertitudes. On continue la lecture au verset 26 et 27. Jésus vint alors que les portes étaient fermées. Ça fait deux fois dans ce chapitre 20 qu'on nous dit que les portes sont fermées. Il se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » C'est à ce moment-là que Jésus décide de se présenter aux disciples, mais il se présente aux disciples pour une seule personne en particulier. C'est pour rencontrer Thomas. Alors oui, il va souhaiter la paix à tous ses disciples. Et on l'a dit tout à l'heure, eux, ils avaient besoin de paix à ce moment-là dans leur cœur parce qu'ils flippaient de ceux qui allaient casser leur porte d'entrée et rentrer. Je pense comme beaucoup de Strasbourgeois hier soir et les quatre derniers jours. Où on se dit, mais jusqu'où ça va aller? Ils étaient terrorisés par la pression qui se passait dans la rue, sur le quartier. Et ils étaient terrés, cachés, s'attendant à Dieu. Mais Jésus vient les rencontrer et leur dit, que la paix soit avec vous. Parce que c'est ce que Jésus produit. Vous savez, Jésus ne nous empêche pas d'affronter les circonstances difficiles de la vie. On est tous à la même école. Les pressions extérieures, elles sont là pour tous. Par contre, avoir Jésus dans la barque de sa vie, il y a une chanson en ce moment qui fait le buzz, qui dit « j'ai Jésus dans mon bateau ». Mais d'avoir Jésus dans notre cœur, à l'intérieur de nos vies, ça vient nous donner des forces pour affronter la vie au quotidien. Le christianisme, c'est pas la fuite des choses en disant « il n'y a rien qui se passe, je fais l'autruche et je mets la tête dans le sable ». Non. C'est des forces intérieures qui nous donnent à affronter l'extérieur. Jésus est avec nous, c'est ce qu'il promet. Il entre dans les portes fermées. Mais ensuite, Jésus va se tourner vers Thomas et il va l'inviter à lever le voile sur ses doutes. Jésus répète exactement les mots que Thomas avait prononcés 8 jours auparavant alors que Jésus n'était pas dans la salle. Il répond exactement aux besoins, à l'attente, au cri du cœur de Thomas. De 8 jours auparavant. Il le rejoint afin de lui permettre d'expérimenter ce qu'il a demandé. Jésus n'était pas là physiquement, mais il connaissait le cœur de Thomas. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, Jésus n'est pas là physiquement au milieu de nous, mais il connaît les cris du cœur, il connaît les attentes, il connaît les besoins et il veut les rejoindre. Jésus ne condamne pas Thomas pour avoir douté. Au contraire, il va se mettre à côté de lui, le rejoindre dans son besoin pour l'amener plus loin. Et c'est comme ça que Jésus fonctionne. Il lui offre la preuve de la résurrection. Il va user de patience envers son disciple, là où il en est dans sa foi, pour l'amener plus loin. Et c'est ce qu'il veut faire avec chacun d'entre nous ce matin. Le fait que Jésus réponde aux interrogations, aux doutes, aux questions de Thomas, nous enseigne que Dieu connaît les préoccupations de nos cœurs. Il n'est pas indifférent à ce que tu peux vivre, il n'est pas indifférent à ce que tu peux traverser. Il connaît ton parcours de vie, il sait là où tu en es. S'il n'est pas là physiquement, il connaît tes besoins et il veut les rejoindre. Les doutes de Thomas dans cette histoire, elles ont un objectif, lui permettre de connaître la vérité. Et lui, il a soif d'expérimenter. J'ai envie de nous poser la question ce matin, combien se donne vraiment le temps et la mesure de s'interroger sur qui est Jésus? Pas ce qu'on m'a raconté de Jésus, pas ce que les médias m'ont dit de Jésus, mais dire « Ok, j'ai envie de te découvrir, j'ai envie de savoir qui tu es ». Combien se sont posés cette question, réellement, sincèrement? Et ma question ce matin, c'est est-ce que ce moment de baptême n'est pas l'occasion pour chacun d'entre nous de nous poser cette question « Mais Jésus, t'es qui pour moi? Qui es-tu? Présente-toi à moi ». Vous savez, j'ai envie de vous dire la chose suivante, mais qu'est-ce qui nous coûte de mettre Dieu au défi dans nos vies? S'il n'existe pas comme certains le croient, vous pouvez lui demander des choses. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si on demande à quelqu'un qui n'existe pas de faire quelque chose? Il ne se passe rien. Mais croyez-moi, mes amis, nous on croit qu'il est vivant et qu'il impacte encore des vies aujourd'hui. Qu'il est capable de changer des choses dans ta vie, il est capable de changer des choses en toi. Ça ne coûte rien de mettre au défi Dieu ce matin. Tu peux le mettre au défi. Je veux parler à quelqu'un aussi ce matin en particulier. Peut-être tu as vécu des difficultés dans ta vie. Tu as subi des paroles dures de personnes autour de toi. Et comme les disciples, tu as fermé, tu as littéralement fermé à double tour l'entrée de ton cœur, l'accès à ton cœur, l'accès à ta vie. Et tu l'as fait parce que t'en avais marre d'avoir mal. Marre de subir les paroles, de subir la pression des gens autour de toi. Et tu l'as fait pour te protéger. Et j'ai envie de te dire que les verrous que tu as mis en place pour essayer de te protéger, Jésus est capable de les transpercer. Il est capable de rentrer en toi, de te rencontrer et de te libérer. De cette prison que tu as toi-même créée pour te protéger. On croit à un Jésus qui est venu pour amener la vraie liberté, mes amis. C'est pour la vérité. C'est pour la vérité qu'il veut nous amener à la liberté. Tu peux vivre quelque chose avec Dieu ce matin. Quelqu'un a dit « Les doutes inavoués trouvent rarement des réponses. » Vous savez, il vaut mieux douter à haute voix que de rester incrédule, c'est-à-dire de ne pas avoir la foi en silence. Alors on ne sait pas, l'histoire ne nous dit pas si Thomas finalement a eu besoin d'aller toucher. Le texte ne dit pas « Allez, je vais aller vraiment mettre le doigt là. » Quand Jésus lui dit « Ben viens, tu peux y aller, je suis là. » L'histoire ne nous dit pas s'il le fait, mais il se passe quelque chose. Cette rencontre avec Jésus, ce que Jésus a permis à Thomas de vivre, l'a amené, c'est mon troisième point ce matin, de la confusion à la confession. De la confusion dans son esprit à la confession. Il va dire au verset 28, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. » Thomas n'a pas persisté dans ses doutes, mais il a permis à Jésus de lui apporter la foi, c'est-à-dire cette confiance en Dieu. Et c'est intéressant de voir que Jésus lui apporte quelque chose de vérifiable. C'est la réalité de la résurrection qui lui permet de toucher, la marque des clous. Et de la même manière, la vie de Christ en nous produit des changements vérifiables, des transformations de vie. Quel changement constatez-vous dans votre vie? Je ne dis pas qu'on est parfait ici, mais quel changement voyons-nous qui prennent place en nous? Vous savez, avant de connaître Jésus, je cherchais à être aimé, j'avais 17 ans, et j'essayais d'être aimé par un groupe que les gens m'aiment, et pour cet amour-là que je recherchais, j'étais prêt à faire tout ce que les gens voulaient, pour exister dans leur regard. Même des choses qui n'étaient pas correctes, même des choses qui n'étaient pas pénalement justes. Et je cherchais à vivre ça pour exister dans le regard de quelqu'un. Et lorsque j'ai rencontré Jésus, j'ai plus besoin de m'inventer une vie pour plaire aux autres parce que j'existais dans le regard de Dieu. En fait, j'existais juste pour qui j'étais, pas pour l'enveloppe, pas pour le profil Instagram, pour mon Facebook où tout est bien, le sourire, etc. Pas une façade, non, le vrai moi. Avec mes galères, mes difficultés, avec mes réussites. Plus besoin de m'inventer une vie parce que j'y existais dans le regard de Jésus. Et ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un, tu existes dans le regard de Jésus. Tu n'as pas besoin d'essayer d'inventer une vie, de créer un fake de toi pour que les gens t'aiment. Dieu t'aime pour qui tu es. Dieu t'aime pour qui tu es, il veut te rencontrer là ce matin. Ça a changé ma façon de vivre. J'ai commencé à vivre pour Christ et plus pour chercher à plaire aux autres. Finalement, en Christ, on peut être le vrai soi-même. Le soi-même renouvelé, transformé par la grâce de Jésus. La vie de Thomas, elle a été bouleversée. Il a reconnu que Jésus, et il dit « mon Seigneur », que Jésus était son Seigneur. Un Seigneur, c'est celui qui dirige, qui règne sur un pays. Mais pas n'importe quel Seigneur, un bon Seigneur. Un Dieu d'amour, un Dieu de bon, un Dieu juste, un Dieu qui prend soin de ses enfants. Il a confessé qu'il avait besoin que Jésus dirige sa vie, mon Seigneur. C'était pas juste, c'était plus juste cet homme bon avec qui il a cheminé pendant 3 ans, qui avait des bonnes paroles de sagesse et puis des bonnes choses pratiques pour la vie du quotidien. Non, mon Seigneur personnel. Pas cet homme juste bon, mais ce Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui a dit qu'il était venu sur terre pour nous sauver de nous-mêmes, pour nous sauver de notre orgueil, de notre égoïsme, de notre péché. Mes amis, si Jésus est Dieu, ça doit avoir un changement, un impact sur nos vies. Et l'histoire va nous apprendre que la vie de Thomas a littéralement changé. Je vais vous donner une citation qui dit « Considérons Thomas », c'est de Josh McDowell, quelqu'un, un défenseur de la foi, qui dit « Considérons Thomas qui a dit qu'il ne croirait pas que le Christ soit ressuscité des morts jusqu'à ce qu'il mette ses doigts dans ses blessures. Thomas mourut plus tard en martyr pour le Christ. S'était-il trompé ? Il a donné sa vie, montrant ainsi que ce n'était pas le cas. » Si Thomas n'avait pas expérimenté la résurrection de Jésus, jamais il aurait été prêt à mourir pour cette cause-là. Jamais il aurait été prêt à donner sa vie à cause de Christ, à cause de ce Christ qui est mort pour des pécheurs. Ce message, le message de la croix que Thomas a communiqué pendant le reste de sa vie, c'est un message qui nous dit qu'on ne peut pas par nous-mêmes atteindre le ciel par nos bonnes actions et qu'en collectionnant les bonnes actions, peut-être que Dieu m'acceptera. Le message de la croix, c'est le Dieu du ciel qui a décidé de s'incarner en homme et de nous rejoindre dans nos réalités avec nos difficultés pour payer le prix que personne d'entre nous pouvions payer. Mes amis, nous sommes tous pécheurs, tous nous sommes orgueilleux, égoïstes, qui fait qu'on cherche parfois à écraser des gens pour avoir de la réussite, qu'on va donner des mauvaises paroles sur quelqu'un afin qu'on ait la gloire. Tous, on est des pécheurs. Mais le Dieu qui nous aime est descendu sur terre en Jésus pour payer le prix de nos fautes et pour pouvoir venir habiter en nous et changer nos vies. C'est ce message-là de la croix qu'on proclame. C'est ce message-là que Marine a témoigné au travers de ce qui a pris place en elle quand elle dit « Il y a de la paix qui est venue à la place de la colère. » Dieu produit des changements en nous lorsqu'on place notre confiance en lui. C'est ce message-là que Thomas a été prêt à donner sa vie pour pouvoir l'annoncer. Il est passé de peureux à courageux. Et ça prend pas par nos propres forces. Ça, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Et ça nous conduit à mon dernier point ce matin, c'est de vous donner quand même quelques arguments en faveur de la résurrection. Jésus va lui dire, donc au verset 28-29, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus ici annonce un temps où il ne présentera plus le genre de preuve comme il l'a fait avec les apôtres. Un temps où nous n'avons pas l'occasion de dire « Seigneur, ben moi aussi je veux voir la marque des clous, puis est-ce que tu peux venir ce matin et puis que je puisse venir toucher ?» Il est en train de parler de ce temps-là. Mais Jésus déclare une bénédiction pour tous ceux qui ont précédé les disciples et qui vont croire sur la base du témoignage des apôtres. C'est sur le témoignage des apôtres que nous retrouvons dans la Bible ce qui a alimenté la foi des chrétiens jusqu'à aujourd'hui. Les chrétiens croient à la résurrection à cause du témoignage de ces gens-là. Ici, on voit Jésus qui se tourne vers l'avenir, au-delà de Thomas, au-delà des apôtres. Il se tourne vers l'avenir, vers l'Église, vers nous, vers les croyants, qui se tournent vers la foi sur la base de ce témoignage. Et le terme grec employé ici pour dire heureux, c'est le terme makarios, qui signifie « il est béni, il est accepté de Dieu, celui qui croit sans avoir vu ». Alors peut-être on pourrait dire, ouais, mais du coup on est moins privilégié, parce que nous, on ne peut pas le toucher en chair et en os. Ça aurait été plus facile pour moi de croire si j'avais pu toucher. Mes amis, on peut vivre la vie et la résurrection de Christ au travers des changements qui prennent place dans nos cœurs et dans nos vies. Au travers du surnaturel de Dieu qui existe encore aujourd'hui, ce surnaturel qu'il est capable de produire dans tes situations, dans tes circonstances. Même si Jésus est absent physiquement, il est présent par son esprit qui vient habiter en toi, qui vient habiter dans celui qui place sa confiance en lui. Ceci étant dit, je voudrais quand même vous laisser quelques éléments qui vont militer en faveur de la résurrection de Christ. Alors la vie de Jésus sur terre, elle est très peu contestée. Voici le témoignage d'un historien juif qui était contemporain de l'époque de Jésus mais qui n'était pas chrétien et qui a dit la chose suivante. Alors le texte que je vais vous lire, il est issu d'une traduction arabe, le Testimonium de Flavius Joseph, qui date du Xe siècle et qui figure dans l'histoire universelle de l'évêque Agapius. Et c'est comme ça que les Arabes ont traduit ce passage. À cette époque, survient Jésus, un homme sage, car c'était un faiseur d'œuvres prodigieuses. Beaucoup de juifs et d'autres nations devinrent ses disciples. Lorsque, sur la dénonciation de nos notables, Pilate l'eut condamné à la croix, ceux qui l'avaient aimé au début ne cessèrent pas de le faire. Ils racontèrent qu'il leur apparut ressuscité le troisième jour. Il était peut-être le Messie dont les prophètes avaient annoncé des merveilles. La question ce matin que je vais nous poser, c'est est-ce que Jésus est juste un homme bon, un prophète ? Vous savez, beaucoup de gens autour de nous pensent que Jésus est un grand homme. C'est sûr que quand on lit le sermon sur la montagne, quand on lit plein de passages, si ton ennemi te fait du mal, ne lui rends pas, etc. Il y a toutes sortes de passages qui parlent de ça et beaucoup de gens disent, ouais, Jésus, il y a quelque chose de différent. C'était un homme sage. Il contenait de la sagesse dans ses discours. Mais ces gens-là ne croient pas qu'il est le Fils de Dieu et encore moins qu'il est mort et ressuscité à la croix. Le problème avec ça, c'est qu'on peut pas dire, ben, soit Jésus est une bonne personne, un prophète, ou qu'il est un fou. On est obligé de choisir. Parce que les propos que Jésus a tenus, c'est « Je suis le Sauveur qui est venu mourir à la croix pour tes péchés. Je suis celui qui te pardonne les péchés. » Personne ne peut dire ça ici. Donc soit on est un prophète, soit on est un fou, mais on peut pas être les deux en même temps. Personne ne peut tenir les discours que Jésus a tenus en étant quelqu'un de prophète et en même temps en mentant sur une identité qu'il n'aurait pas accomplie, à savoir pardonner les péchés, à savoir mourir et ressusciter. Donc soit Jésus est un fou, soit il est ressuscité, mais il ne peut pas être les deux à la fois. Et voici quelques arguments que je voudrais vous donner en faveur du tombeau vide. Tout d'abord, le témoignage des femmes. Rassurez-vous, je ne suis pas misogyne, rassurez-vous tout de suite. Mais dans le contexte de l'époque, on ne pouvait pas prendre en compte le témoignage d'une femme. Leur témoignage n'avait aucune valeur devant un tribunal. Elles étaient considérées, il y a même des juifs qui priaient « Merci de ce que tu ne m'as pas fait femme ». Ça, c'était la prière des juifs à l'époque. Merci parce que je ne suis pas une femme. La femme était déconsidérée dans la société d'avant. Leur témoignage n'avait pas de valeur devant un tribunal, elle ne pouvait pas attester. Mes amis, si l'évangile avait été monté de toutes pièces, il faut être complètement fou pour dire, tiens, pour prouver qu'il est ressuscité, je vais prendre le témoignage de quelqu'un qu'on ne va pas écouter de toute façon. S'ils avaient voulu monter, l'évangile était un montage, on aurait pris des gens dont on était sûr qu'on n'allait pas remettre en cause leur témoignage. Mais pourquoi l'évangile parle de femmes qui racontent la résurrection ? Tout simplement parce qu'elles ont vraiment vu la résurrection. Deuxième point, le doute des uns et des autres. L'évangile, comme pour nos propres vies, ne fait que de mentionner des croyants comme vous et moi qui des fois on vit des trucs de fou avec Dieu et puis deux jours après on est complètement démonté, on remet en doute, on remet en cause toute notre foi. La Bible ne décrit pas « il était une fois et ils vécurent des jours heureux ». Non, elle nous décrit des gens comme vous et moi avec leur colère, avec leur lutte, avec leur combat. Elle nous donne un regard clair sur qui étaient ces témoins. S'ils avaient voulu faire un montage, ils n'auraient pas dit « oh, c'est vrai que j'étais une mauvaise personne ». Non, ils auraient cherché à tirer la couverture sur eux pour montrer combien ils étaient bons, combien ils étaient grands. Mais les disciples ne font pas ça. Ils font juste relater leurs faiblesses et comment la force de Dieu s'est manifestée dans leur vie. Ils font juste que témoigner de ce qu'ils ont vécu. Si Jésus n'était pas ressuscité, mes amis, il n'aurait pas été difficile pour les Romains de tuer le christianisme dans l'œuf. Ils auraient été chercher la dépouille de Jésus dans le tombeau. Ils auraient fait un cortège dans la ville. Fin de l'histoire. Les gars disent qu'il est ressuscité, voici le corps. Ils n'ont pas pu le faire. Alors d'autres ont dit, oui, mais c'est normal. Les disciples ont été volés le corps. Vous savez, on parle de ces gars qui flippaient, qui étaient cachés dans leur chambre. Là. Ils ont été affrontés une armée de soldats romains entraînés. Vous savez, c'est comme si là, on allait voir les CRS en face et puis dire, eh, bouge pas, toi. Non. Il y avait une cohorte de soldats qui était là, spécifiquement là, pour pas que ça se produise. Parce que les Romains avaient peur que ça se produise. Jésus n'est plus dans le tombeau. Ils n'ont pas pu prouver, ils n'ont pas pu faire défiler ce corps. Jésus est ressuscité. Un dernier point. Que Jésus soit assez fou pour croire qu'il était le Messie, qu'il allait mourir, qu'il allait ressusciter, ça peut arriver. Des illuminés, il y en a partout. Mais des gens qui sont prêts à mourir en sachant que le gars n'est pas ressuscité et qui vont donner leur vie pour ça, ça personne ne le fait. On peut être fou soi-même, mais il ne peut pas y avoir toute une équipe de fous qui voit bien que le gars n'est pas sorti puis qui disent « je proclame qu'il est ressuscité et puis il a changé des vies puis il m'a changé ma vie ». Personne n'est assez fou pour aller donner sa vie pour une cause que tu sais qui est fausse. Ils étaient convaincus, ils ont expérimenté la résurrection. La tradition explique que Pierre, André, Philippe, Bartholomée, Jacques, fils d'Alphée, sont morts crucifiés. Jacques, fils de Zébédée, Matthieu, ont été tués par l'épée. Thaddée fut percé par les flèches. Et Thomas, notre Thomas, par une lance. Mes amis, ils sont tous passés de la lâcheté au courage. Donc nous sommes invités, mes amis, ce matin à faire confiance au témoignage de ces gens qui ont été prêts à donner leur vie pour annoncer la mort et la résurrection de Jésus. Josh McDowell dira encore la chose suivante et je vais inviter le groupe à revenir. Les disciples de Jésus n'auraient pas pu affronter la torture et la mort à moins d'être convaincus de sa résurrection. L'unanimité de leur message et de leur conduite était étonnante. Qui que nous soyons ce matin, on a ce privilège de pouvoir nous approcher de Jésus. On peut s'approcher de lui avec nos doutes, on peut s'approcher de lui avec nos questionnements. Je crois que Jésus veut rejoindre, accueillir ces questionnements que tu peux avoir dans ton cœur. Comment ça se passe? Ben simplement en priant. Nous croyons à un Dieu vivant qui entend nos prières. Marine en a parlé aussi dans son témoignage. Elle a été priée avec d'autres chrétiens et il y a des choses qui ont pris place. Tu as le droit, où que tu sois, que ce soit aujourd'hui alors qu'on va reprendre un chant, ou cette semaine quand tu seras tout seul, et qu'à un moment tu diras, je vais quand même réfléchir à ce que ce gars il a raconté l'autre jour et me poser vraiment la question de qui est Jésus pour moi. Je vais peut-être aller enquêter un petit peu, je vais peut-être me mettre à lire la Bible. Tout à l'heure Anne nous a dit si vous voulez, qu'il y a des Bibles disponibles. Si vous avez juste envie de vous poser la question, vous savez, la Bible elle tue personne. J'ai encore jamais vu personne qui est mort pour la Bible. J'ai vu des fanatiques mourir pour certaines religions, mais la Bible, elle, n'a pas un message qui parle de mort et de destruction. Elle parle de l'amour du Père qui veut agir dans nos vies. Peut-être que cette semaine, tu vas te poser cette question. Simplement en disant, ben, écoute, si tu existes quelque part, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Croyons à un Dieu qui se révèle. Croyons à un Dieu qui rencontre des vies. Croyons à un Dieu qui rencontre des besoins. Peut-être il y a des choses tellement lourdes sur ta vie, on en a parlé tout à l'heure, de paroles qui ont été données, mais peut-être des situations qui sont comme bloquées ce matin. Des situations où s'il n'y a pas de miracle, il ne peut rien se passer. Jésus est capable d'agir. Jésus est capable de te répondre et d'adresser le message particulier. Pas forcément la réponse comme nous, on l'attend, mais capable de nous rejoindre et de nous parler sur cette situation. Vous savez, il peut nous délivrer surnaturellement ou il peut nous aider à traverser surnaturellement les épreuves. Mais il a un Dieu qui se révèle et je crois qu'il veut le faire encore ce matin au milieu de nous. Je crois que c'est peut-être le temps pour toi ce matin de laisser tes doutes, de les exprimer en tout cas à celui qui est vivant, qui veut te conduire. Je crois que comme Thomas, Jésus veut te faire expérimenter sa vie de résurrection dans la tienne. Et ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il va le faire à ton rythme. Il ne va pas te brusquer, il ne va pas te manipuler, il ne va pas te forcer. Tu vas lui ouvrir une partie, il va entrer dans cette partie. Et il va t'apprendre à cheminer avec lui et à lui faire confiance pas à pas. Est-ce qu'on peut se lever ce matin dans ce lieu? Prier tous ensemble. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu qui te révèle. Merci Jésus parce que lorsque j'étais loin de toi, que j'essayais d'être aimé, et que j'étais parti dans toutes sortes de choses juste pour avoir un regard favorable sur ma vie. Tu es venu me rencontrer pour me dire, mais t'as pas besoin de faire tout ça. Je t'aime tel que tu es. Je crois que tu veux parler à quelqu'un encore ce matin, Seigneur, de faire tomber les masques, de faire tomber ce masque où j'essaye d'être accepté. Jésus te dit, je t'accepte tel que tu es. Mais je t'aime trop pour te laisser dans l'état dans lequel tu es. Je veux agir et encore agir dans ta vie et faire une œuvre de transformation. Il est ce Dieu vivant ressuscité. La Bible nous dit que la mort n'a pas pu le retenir à la croix. L'esprit de vie, le Saint-Esprit a ressuscité Christ d'entre les morts. Et cet esprit de vie veut encore te rencontrer ce matin. Oh Seigneur, je te prie de visiter, d'encourager, de fortifier dans ce lieu, Jésus. Tu es un Dieu vivant. Merci pour le témoignage des apôtres qui nous ont laissé la preuve que tu as donné ta vie à cause de notre péché pour faire de nous des enfants de Dieu ce matin. Merci parce que c'est une grâce. On ne mérite rien, ce n'est pas nos actions qui nous permettent de nous approcher de toi. C'est juste ton amour qui s'est manifesté en Jésus et qui nous appelle et qui nous dit « viens encore ce matin ». Seigneur, on t'invite dans ce lieu, on t'invite dans nos cœurs ce matin encore à prendre la place. On te dépose nos doutes, nos peurs. Merci Seigneur parce qu'on est accepté avec nos questionnements. On ne veut pas d'esprit du jugement ou quoi que ce soit, Seigneur, dans ta présence. Merci Seigneur parce que tu veux rencontrer encore des vies en 2023, nous croyons. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas. Tu es le Dieu qui rencontre des vies. Tu es le Dieu qui fait passer des gens de la colère à la paix, qui fait passer les gens de la souffrance à la libération. Tu es le Dieu qui assèche les larmes encore, les choses cachées que personne ne connaît, qui sont là à l'intérieur de nous. Tu es le Dieu qui met ta paix encore ce matin. Merci Seigneur pour qui tu es, Jésus. On s'approche de toi encore avec foi, Père. Au nom puissant de Jésus. Amen.
La Bible dit ceci, que Dieu est co-ouvrier avec nous. Et ce matin, l'Église, elle a rempli son mandat de se rassembler, d'accueillir celles et ceux qui veulent découvrir le Christ, qui sont interrogatifs sur le Christ. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a l'œuvre du Saint-Esprit. Et Dieu parle, et Dieu interpelle, et Dieu bénit. Alors si ce matin, il y a eu cet écho dans votre âme, comme on l'a dit, on serait heureux de vous offrir l'histoire de Jésus qui est encore possible de connaître aujourd'hui, la Bible. On est heureux aussi de pouvoir être une communauté où vous êtes accueillis. Combien d'entretiens, de rendez-vous avec des personnes qui doutent, qui ont des questions à poser, qui ont des questions à poser même sur l'Église, le sens de l'Église aujourd'hui. Vous êtes les bienvenus à l'EPI. Vous êtes les bienvenus. On va vivre un temps fort. On a vécu un baptême, et dans la Bible, un des symbolismes du baptême, ça retraduit une nouvelle naissance. Et il y a des naissances. Et il y a eu une naissance en particulier, le 18 décembre 2022. Je vais inviter une des personnes importantes de cette journée, Lynn. L'église, restez debout, on va prier pour eux, vraiment, on a besoin de vous, en mode position, prière, bénédiction et tout. Est-ce qu'on peut accueillir Lynn, Céline, Julien, Jung? Venez, je vous en prie. Je vais inviter Papa Tsanga à venir aussi, s'il vous plaît. Rien de mieux qu'un Papa Tsanga pour prier aussi pour la famille. Très heureux de vous honorer, vous accueillir ce matin. Salut Lynn, t'es toute belle. C'est tonton Mathieu. Salut toi. Raymond Pierre l'a précisé, nous ne baptisons pas les enfants, nous les présentons au Seigneur et nous profitons aussi pour bénir le papa, bénir la maman, bénir la famille, bénir les grands-parents, bénir tout le monde. Mais vraiment prier aussi pour la destinée de cette petite Lynn. Que le Seigneur la bénisse, que le Seigneur l'accompagne. Nous croyons qu'il y a un cheminement et que Dieu aime chaque être humain. Et que dans ce cheminement, il va se révéler à Lynn. Par l'éducation du papa, par l'éducation de la maman, par la vie, par l'église, par épisode peut-être aussi, par cadeau, par le groupe de jeunes. Et on veut vraiment vous bénir tous les trois. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et je voudrais vraiment inviter toute l'église à se joindre à ce temps de présentation à Dieu. Jésus a dit ceci, « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Alors ce matin, on veut obéir encore une fois à Jésus 2023 ans plus tard et bénir toute cette famille.
Prions. Merci Seigneur pour la vie de Lynn. C'est toi qui es l'auteur de la vie. Et Seigneur, nous confessons que ce n'est pas un hasard qu'elle soit là. C'est ta volonté. Seigneur, nous te prions afin, Seigneur, que tu donnes à Lynn de grandir, Seigneur, dans ton amour. Seigneur, qu'un jour elle-même elle puisse faire cette démarche de la rencontre avec toi. Parce que tu as donné ta vie pour elle. Avant, Seigneur, qu'elle arrive dans ce monde, tu l'avais déjà accomplie. Et Seigneur, ta promesse est de ne jamais laisser ceux qui viennent à toi, de ne pas les laisser de côté. Parce que tu es le bon berger. Merci pour la famille dans laquelle, Seigneur, Lynn est née, dans la famille de Julien et Céline. Seigneur, que tu puisses pourvoir à tous leurs besoins, parce que tu es aussi le Dieu qui pourvoit. Seigneur, que tu leur accordes la sagesse qui vient de toi, afin que tous les deux puissent, Seigneur, l'enseigner dans tes voies, qu'elle puisse être elle-même un jour ce témoin fidèle, comme l'avons encore entendu ce matin. Seigneur, parce que tu veux que nous soyons tous sel et lumière dans ce monde. Seigneur, nous bénissons toute leur famille de cette bénédiction qui vient d'en haut. Que cette famille puisse grandir, continuer à grandir dans ton amour. Continuer à grandir, Seigneur, dans ta grâce. Seigneur, qu'elle puisse être fidèle jusqu'au bout. Seigneur, qu'un jour, tu puisses leur dire à chacun, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Seigneur, merci pour les familles, Seigneur. Vraiment, je profite de cette occasion, Seigneur, pour prier pour toutes les familles. Combien ces temps sont difficiles. Combien les moments que notre pays traverse sont difficiles. Et nous te prions, Père, pour les familles. Aide-nous à tenir ferme. Toi qui es le rocher. Seigneur, que ton amour puisse venir compenser les manques peut-être qu'il y a dans les cœurs de nos enfants, de nos adolescents. Seigneur, que ta paix, qui surpasse toute intelligence, puisse régner au sein de nos familles. Seigneur, que notre pays puisse être en paix, retrouver la paix dont il a tant besoin. Que chaque famille, malgré les difficultés qu'elles peuvent connaître, que chaque famille puisse retrouver toute la paix dont elle a besoin. Seigneur, que ton nom soit ainsi glorifié. Amen.
Julien, Céline, soyez bénis. Lynn aussi, on te souhaite un merveilleux cheminement dans cette vie aussi. Voilà, on peut encore les applaudir et les bénir et les encourager. Puis on salue la famille qui était là aussi. Tout va bien, Église ? Oui, vous pouvez prendre place un instant. On va parler de la vie de l'Église aussi. Alors, pour la petite histoire, RP est censé être un ami loyal. Pas trop raconter nos histoires sur stage comme ça, ici. Mais j'avais le poisson de ma vie au bout de la ligne, les amis. Et j'avais besoin d'un ami fidèle pour sécuriser le poisson, pour que je puisse prendre une belle photo d'un silure de plus d'un mètre cinquante. Et cet ami m'a abandonné. Mais l'évangile qui est dans mon cœur a fait que j'ai pardonné à cet ami. Merci RP pour ce message de foi. Vraiment, est-ce qu'on peut encourager RP pour vraiment ce qu'il a apporté ce matin? C'était tellement bon. Encore une fois, on est heureux de vivre ce temps de célébration avec vous. On a quelques petites annonces. Vous savez qu'on rentre dans la période estivale, les vacances scolaires. Et de la part de tous les responsables de l'EPI, nous voulons vous souhaiter que ces moments, si vous avez des temps de congé, que ces moments soient des moments de ressourcement. On veut vous bénir dans le nom de Jésus. Bénir vous qui êtes déjà en partance, que le Seigneur vraiment vous renouvelle. Prenez le temps, si vous le pouvez, de vous ressourcer pendant cette période estivale. Pendant l'été, on va recevoir un ami de l'EPI. Il a été membre pendant qu'il était doctorant ici à la fac de théologie de Strasbourg. Je parle de Timothée Minard et on aura la joie de l'accueillir au milieu de nous. Timothée est maintenant avec toute sa famille, son missionnaire à Madagascar. Il est enseignant, il participe à la formation de pasteurs, d'évangélistes, de personnes qui vont partager l'amour de Dieu, bénir les églises, accompagner les églises dans leur croissance. Et il sera là avec nous le dimanche 9 juillet 2023. On va l'accueillir, on va le bénir et simplement nous rappeler aussi que nous le soutenons aussi, même financièrement. Nous croyons que la théologie, ça va être pour le bon pont pour parler de ma deuxième annonce, mais nous croyons que la théologie, que notre foi a besoin de contenu. Et vraiment, on est heureux de pouvoir l'accueillir. Alors on compte sur chacune et chacun d'entre vous pour bien l'accueillir comme il se doit avec toute sa famille. On est vraiment heureux de l'avoir. Une autre annonce, si on peut le projeter, c'est Insté. Parfois, on aimerait étudier la Bible et on aimerait la creuser en profondeur. Et parfois, c'est compliqué parce qu'on est à une étape de notre vie où c'est plus trop possible d'aller dans une école biblique. Et j'aime cette punchline d'RP, elle est vraiment bonne. Quand tu ne peux pas aller à l'école biblique, elle vient à toi. L'école de théologie, elle vient à toi. Il nous reste encore quelques places. Donc, si tu peux faire défiler, s'il te plaît, Insté, nous proposons en fait, c'est quoi ? C'est une étude personnelle, c'est des outils, c'est une méthode. C'est un institut de théologie chez soi. Alors, c'est en petit groupe, c'est sur inscription au point accueil. Et à la fin, vous avez un certificat, vous inquiétez pas, c'est pas non plus... C'est pas non plus une fin d'année avec un mémoire à rendre ou quoi. Non, c'est juste pour s'assurer que les acquis sont bien descendus, que sont bien été assimilés. Et du coup, il reste 3 places. Donc, c'est une formation, première année, formation de disciples, la formation de disciples, deuxième année, on touche à plein de sujets. La vie de Jésus, le service pour Dieu, plein de thématiques en lien avec la Bible. On parle de l'Ancien Testament, on parle du Nouveau Testament, tu peux continuer. Merci beaucoup. C'est pour qui ? C'est pour tous ceux qui ont à cœur de se former bibliquement, à cœur d'étudier la Bible de manière plus personnelle et en groupe. Ce sont des personnes qui sont engagées et baptisées, qui ont déjà quand même un petit terreau là sur lequel ils peuvent continuer à arroser pour que le royaume de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu grandisse en eux. Comment ? C'est une étude quotidienne de la Bible à l'aide du livre Insté. Rencontre tous les 15 jours en groupe afin de réfléchir ensemble sur les concepts étudiés. Et enfin, vas-y, oui, c'est un coût pour payer les livres, 220 euros sur les 4 ans. L'inscription se fait au point accueil jusqu'à aujourd'hui, mais normalement, il reste 3 places, ça va partir très très vite. Donc début de la formation en septembre, octobre 2023. Dernière petite annonce aussi, la semaine prochaine, nous aurons notre temps de communion ensemble autour de la scène, un temps vraiment où, en disciples, nous pourrons prendre ces éléments qui symbolisent toute notre foi aussi. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour ce temps de communion, de communion comme on dit dans les milieux anglophones. On va célébrer la mort, la résurrection de Jésus au travers de cette expression de notre foi qu'est la scène. Je n'ai rien oublié, vous avez l'air de bien aller, tout se passe bien pour vous. Aloïs, ça va ? Très bien. Et si on se levait ensemble pour terminer en louange ? Let's go.
On va déclarer encore que Dieu est admirable. Chemin. Jésus.
Toute la gloire à Jésus, un bon retour à chacune et à chacun. Rendez-vous la semaine prochaine, soyez bénis. Bon retour à chacun.